Jérôme Ferrari est écrivain, il aime les récits d'explorateurs, et grâce à lui, pendant une heure, il sera question de l'Algérie, du Sri Lanka, des Émirats Arabes Unis et de la Corse, dont est originaire la famille Ferrari.
Mon père, il travaillait à Air France, donc on payait quasiment pas les billets d'avion. Mais comme j'habitais à Paris quand j'étais adolescent, la seule destination qui m'intéressait, c'était la Corse. Donc j'utilisais tous mes billets d'avion pour rentrer. Donc j'ai même pas profité, quand j'en avais le droit, jusqu'à 25 ans, de la possibilité de voyager comme ça. Je suis rentré m'installer en Corse en 88. Je n'en ai pas bougé jusqu'en 2003. Et j'ai commencé vraiment à avoir envie de partir.
Jérôme Ferrari a publié son premier texte il y a 25 ans. En 2012, il reçoit le prix Goncourt pour le sermon sur la chute de Rome, tandis qu'il est en poste à Abu Dhabi, où il enseignait la philosophie. Il l'enseigne toujours d'ailleurs, mais aujourd'hui à Paris. Il y a 8 ans, il s'est lancé dans l'écriture d'un triptyque intitulé « Contes de l'indigène et du voyageur ». Dans le premier volet, « Nord Sentinelle », il était question du tourisme de masse en Corse. Le deuxième volet vient de sortir sous le titre « Très brève théorie de l'enfer » et le livre tresse deux récits. Celui d'un Français expatrié aux Émirats Arabes Unis et celui d'une Sri Lankaise venue à Abu Dhabi elle aussi mais pour envoyer de l'argent à sa famille restée sur place. Deux immigrations, deux mondes qui se côtoient, parfois sans se connaître. Jérôme Ferrari m'a reçu chez lui, à Paris, et assis sur le canapé, j'avais une guitare dans mon champ de vision.
Totémique. Rebecca Manzoni sur France Inter.
De la musique, vous en avez fait, vous ?
J'en ai fait beaucoup, 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 oui. Ouais. Quand je suis arrivé en Corse, j'ai passé 2 ou 3 ans à faire à peu près que ça. À jouer, à chanter. À Corté, à la fac, il y avait des guitares dans tous les bars. Il y avait, quand je suis arrivé en 88, il y avait de la musique dans tous les cafés de la ville. Et de la musique jouée et chantée par des gens qui avaient un niveau absolument invraisemblable. Hein. C'était paradisiaque pour moi.
J'aimerais qu'on écoute le tube que vous avez choisi.
Très bien.
Alors, ça, il faut vous le mettre dans votre oreille, je me permets.
Oui.
Ça derrière, hop. Je ferai n'importe quoi pour te ramener à mes côtés, mais je continue à rire en cachant mes larmes parce que les garçons ne pleurent pas. C'est le refrain de Boys Don't Cry, des Cure, choisi par Jérôme Ferrari. Là, nous sommes en 1979.
C'est ça, exactement.
Donc vous avez 11 ans.
Mais j'ai pas découvert ça quand j'avais 11 ans. J'ai découvert ça un peu plus tard, quand j'étais au lycée. Donc je pense que les Cure, j'ai commencé vraiment à les écouter beaucoup en 84, 85. Et juste au moment où sortait l'album The Head on the Door, qui était 1985, qui est l'année de mon bac. Pendant toutes mes années de collège et de lycée, j'écoutais à peu près que de la musique corse, de la musique sud-américaine. Et j'écoutais quasiment pas de pop rock ou de choses de ce genre-là. Et c'est par Cure que j'y suis retourné. Et c'est un groupe que j'ai vraiment extrêmement beaucoup adoré. Et qui a eu d'ailleurs une influence fâcheuse à un moment sur ma coupe de cheveux quand j'étais en prépa.
Est-ce que la musique compte quand vous écrivez ?
Au début, oui, énormément. Quand j'ai commencé à écrire, ça comptait même tellement que c'était un peu trop.
Comment ça ?
L'un des premiers textes que j'ai écrit qui n'a jamais été publié, il était beaucoup trop plein de références à des morceaux de musique. Et même dans mes 3 premiers romans, il y a des morceaux de musique qui sont cités et ça n'a plus été le cas après. Je les ai pas, c'est pas volontaire, mais je crois que j'ai commencé vraiment à écrire très très jeune, mais j'ai publié, j'étais pas très très jeune. Et parce que je pense qu'il y a une, dans le parcours qu'on a quand on écrit, il y a, c'est un grand parcours de digestion de références. Et que ce soit musical, que ce soit littéraire, et il est bien possible que le style qu'on finit par avoir et qui est à nous soit juste un agencement subtil de recombinaison de choses qu'on a lues. Sauf qu'au début, quand on écrit, ça se voit vraiment. Et que c'est pas mal de se libérer un peu de ça. Et c'est, quand on s'en libère, ça veut dire pas qu'on l'a laissé derrière soi, hein. Ça veut dire qu'on l'a vraiment fait nôtre.
Jérôme Ferrari publie son premier texte en 2001. Il remporte le prix Goncourt en 2012 avec le sermon sur la chute de Rome, l'histoire de deux jeunes hommes, Libéro et Mathieu, qui mènent leurs études ensemble à Paris et qui ont un rêve, retourner sur leur île, la Corse, pour y reprendre le bar de leur village. Les deux garçons se lient d'amitié dans leur enfance, Libéro grandit en Corse, alors que Mathieu ne vient y passer que les vacances. Jérôme Ferrari écrit « Mathieu accepta de suivre Libéro dans le village et il se laissa guider dans un chaos de chemins secrets, de sources, d'insectes merveilleux et de ruelles qui s'agençaient peu à peu en un espace ordonné, jusqu'à former un monde qui cessa bien vite de l'effrayer pour devenir une obsession. Mathieu ne vivait plus que dans l'attente de l'été, et quand il eut compris, dans sa 13e année, que ses parents, en véritable monstre d'égoïsme, n'envisageaient pas une seconde de quitter leur emploi parisien pour lui permettre de s'installer définitivement au village, il les harcela pour qu'il l'envoie au moins pendant les vacances d'hiver. » Pourquoi c'était si important de revenir en Corse, puisque vous êtes né à Paris ?
D'abord, moi, il me semble que j'ai fait l'expérience d'avoir une espèce de double existence, une à Vitry, une au village. Vitry-sur-Seine, qui faisait de moi quelqu'un de profondément incohérent. Enfin, c'est comme ça que je me vivais un peu à l'époque, hein. Où je me tenais dans une forme de schizophrénie, mais qui en même temps élargissait énormément mon horizon. Et d'un point de vue complètement trivial, je préférais 120 000 fois ma vie en Corse à ma vie à Vitry, que j'ai jamais beaucoup aimé, hein. J'aimais et j'aime encore beaucoup le sentiment d'ancrage quelque part, notamment d'ancrage familial, de communauté qu'il y a dans les villages, communauté entre les gens qui y vivent, entre les morts et les vivants. C'est des choses qui sont très très importantes pour moi. Et par ailleurs, au moment où je suis retourné, où je suis arrivé à Corté, il y avait des tas de jeunes gens qui, comme moi, suivaient le même chemin. Parce que c'est la fin des années 80, ça avait dû commencer au milieu des années 80, une espèce de renouveau culturel qui date du milieu des années 70. Et il y a en même temps la convergence entre, comme souvent d'ailleurs, hein, entre une espèce de mouvement social et un désir individuel qui suit ce mouvement, dont j'ignorais même l'existence.
À quel moment vous avez appris le Corse, vous ?
J'ai appris le Corse quand j'avais vers 14 ans, et je l'ai fait parce que j'écoutais beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique corse, et j'ai appris en demandant à ma mère de me traduire les paroles. Parce que on parlait pas corse à la maison, parce que mon père ne le parlait pas, dans la mesure où mes grands-parents paternels avaient pris un soin maniaque à faire en sorte qu'aucun de leurs enfants ne parle corse. Ce qui fait qu'ils parlaient corse entre eux, mais jamais devant leurs enfants, et mon père parlait pas, ma mère oui.
Et pour quelle raison ?
Parce qu'ils ne voulaient pas leur apprendre une langue de plouc, je pense, à l'époque. Hein. C'était une question de prestige social et d'image liée à l'usage de la langue corse. Hein. C'était, je pense que c'était tout simplement ça. Et du coup, voilà, j'ai appris comme ça.
Alors, beaucoup de vos romans précédents prenaient la Corse comme matière littéraire. C'était aussi faire entrer cette région en littérature.
Ah ben oui, alors cette ambition a été portée avant nous par quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a été le premier auteur corse à publier chez Actes Sud, qui est Jean-Baptiste Prédal, et qui parlait il y a une expression que j'aime beaucoup et qui est très juste, et dans sa concision, c'était de faire rentrer la Corse dans la dignité littéraire.
Voilà. Dans la dignité
littéraire. Dans la dignité littéraire, c'est comme ça qu'il a... Et moi je suis assez d'accord, oui. C'est-à-dire...
Pourquoi ce mot dignité ?
Bon, je pense qu'il y a une opposition implicite dedans avec tout ce qui relève du folklore, de la couleur locale, et sans doute de l'utilisation voilà, un peu mérimienne et complètement à côté de la plaque et de la réalité
alors, quotidienne. Mérimienne, c'est-à-dire donc Mérimée, qui, au XIXe siècle, a posé un certain nombre de clichés, d'une certaine façon, sur la Corse, notamment pour ce qui concerne la vendetta, corrigez-moi si je me trompe.
Non, c'est absolument juste. Enfin, pour quiconque veut connaître un peu la Corse, et y compris la vendetta du XIXe siècle, c'est vraiment bien le dernier bouquin qu'il faut lire. Alors c'est des clichés qui sont absolument, je ne fais pas le procès de Mérimée, c'est des clichés qui sont absolument inévitables dans la mesure où la Corse devient française, elle appartient manifestement à l'ère culturelle italique et donc elle a un aspect extrêmement bizarre et exotique pour les Français du continent, aspect qu'elle conserve d'ailleurs en grande partie maintenant, mais et où ils réinterprètent les choses avec les structures de code d'honneur, de duel qu'ils ont, en y décelant une espèce de sauvagerie héroïque, qui est assez vite démentie dès qu'on met le nez dans les archives concernant la vendetta du XIXe siècle, qui est, où il y a bien le côté sauvagerie, mais enfin le côté honneur et héroïque, moins. Voilà. Et donc effectivement, c'est un énorme producteur de clichés, Mérimée, et des clichés qui ont une importance parce qu'ils ont façonné non seulement l'image de la Corse aux yeux de l'extérieur, mais je pense aussi l'image de la Corse aux yeux des Corses. Et c'est très important, les clichés. C'est pas seulement bête, un cliché. C'est pas une simplification outrancière ou un contresens ou une erreur, ça a des effets.
Ça construit une identité.
Ça construit une identité, mais de manière tout à fait générale, je pense que c'est vrai. Et puis ça force à se, en quelque sorte, ça force aussi à se positionner par rapport au cliché. On peut l'accepter, le rejeter, mais le rejeter ou l'accepter, c'est de manière de se positionner par rapport à lui, s'y conformer, ben, voilà.
Est-ce que vous avez commencé à écrire donc avec la volonté d'aller contre ces clichés ?
Absolument, absolument. Et Marco aussi d'ailleurs. On était
Marco Biancarelli donc.
Oui, Marco Biancarelli. On était tous les deux profs au lycée à Porto-Vecchio. On s'est rendu compte qu'on écrivait tous les deux. On s'est passé nos textes et on s'est rendu compte qu'on écrivait non pas la même chose du tout, hein, mais qu'on était animé par. C'est des choses de l'esprit de l'époque, je suppose, hein, qu'on était animé par le même souci, sans doute aussi d'une même conception de ce que pouvait faire la littérature en termes de rendre justice à la réalité, quoi, et de parler des choses qui existaient et pas des fantasmes. Et c'est vrai que Porto-Vecchio, à la fin des années 90 ou au début des années 2000, et maintenant encore, c'est une station balnéaire où la réalité quotidienne, notamment en été, c'est davantage les yachts et les boîtes de nuit que les bandits d'honneur. Voilà. Et c'était important de le montrer. Avec une volonté, je pense, au début même un peu iconoclaste, qui a fait qu'on s'est quand même bien amusé.
À suivre, un morceau extrait du nouvel album d'une poétesse et chanteuse du Queens. Elle s'appelle Yaya Bey.
Say what you mean what you say. It's a new day. There's no running away from yourself. You're getting old, needless to say. It's a new day. And a few grey. The sky is too, too, too.
Un petit appart au dernier étage d'un immeuble parisien. Jérôme Ferrari vit là, après avoir été prof en Corse, en Algérie et aux Émirats Arabes Unis. C'est là qu'il situe son dernier roman, Très brève théorie de l'enfer. Suite de la conversation avec Jérôme Ferrari, c'est au Témique jusqu'à 10h. C'est quoi la bague que vous portez là ?
C'est une bague à laquelle je tiens absolument énormément et que j'ai achetée en juillet 2003 à Sanaa au Yémen. Et Sanaa, je pense que c'est quelque chose, j'ai jamais rien vu de plus beau et on peut plus le voir maintenant.
Quelle place tiennent les récits d'explorateurs dans votre imaginaire ?
Quand j'étais petit, Larousse vendait tous les mois l'Histoire de France en bande dessinée, et puis il vendait un truc qui s'appelait La Découverte du Monde en bande dessinée. Il y avait des choses sur Marco Polo, Ibn Battuta, sur toutes les explorations comme ça, et j'ai tout de suite adoré ça. Par ailleurs, d'un point de vue familial, moi, comme dans beaucoup de familles corses, la génération de mes grands-parents, c'est des gens qui sont partis au début du XXe siècle, et qui ont donc beaucoup voyagé dans l'Empire colonial français. Hein. Ma mère, elle est née à Damas, parce que mon grand-père maternel était dans l'armée du Levant dans les années 30, et mon père, il est né à Rabat, parce que mon autre grand-père était administrateur civil de Taza. Bah, si bien que, voilà, depuis que je suis tout petit, l'ouverture sur le monde, plus ou moins honorable d'ailleurs, et par ailleurs, mon grand-père, mon maternel, il est parti en 1920. Il s'est engagé dans l'armée en 1920, il n'avait jamais mis les pieds en dehors de son village qui est à 40 km d'Ajaccio quand il s'est engagé. Je crois que le jour où il s'est engagé à Ajaccio, c'est la première fois qu'il voyait la mer. Et un mois ou deux après, il était à Dakar. Et je me suis toujours demandé, puisque nous on ne peut pas le savoir et on ne le saura jamais, quel était le type de gifle qu'on prenait et quel sens pouvait bien avoir le terme de dépaysement dans des cas comme ça.
De quelqu'un qui quitte son village, qui est même jamais allé à 40 km de chez lui et qui se trouve sur un autre continent, presque dans une autre galaxie d'une certaine façon.
C'est des choses qui suscitent beaucoup d'intérêt pour moi et qui sont assez fécondes en termes d'imagination. Voilà, c'est cette espèce de confrontation avec l'altérité et l'étranger, quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Et puis voilà, moi je pense que c'est ce qui a aussi suscité mon propre désir de travailler à l'étranger à un moment.
Vous êtes allé en Algérie au début des années 2000, alors que vous étiez enseignant en Corse. Pourquoi l'Algérie ? Dans des années qui suivaient ce qu'on a appelé les années noires, à savoir la guerre civile en Algérie.
Le choix de l'Algérie, il était assez simple. C'est qu'à l'époque, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger faisait des distinctions entre les postes qui étaient proposés aux agrégés et aux certifiés. Moi, j'étais agrégé. Et le seul poste qui avait été disponible en 2003, c'était l'Algérie. Donc, c'était pas du tout un choix pour moi. C'était simplement que je voulais partir, que j'avais pas... que mon envie de partir était, vaste, et que j'avais pas de désir particulier, et donc j'y suis parti, et le fait justement que j'ai pas choisi l'Algérie, et que j'ai pas réalisé un désir préalable en y allant, je pense que c'était une énorme chance, parce que je suis pas du tout arrivé là-bas avec des idées préconçues.
Vous l'avez pas fantasmé avant,
non,
quoi ?
Non, j'avais pas fantasmé avant du tout, j'avais aucune idée de rien. Je désirais rien d'autre que ce qui pouvait m'arriver, et du coup ça a été une expérience assez inoubliable pour moi, et somme toute, me semble-t-il, le meilleur moyen de rencontrer vraiment quelque chose, quoi, de pas avoir d'attente, et donc possiblement des désillusions inévitables.
Il y a quelques éléments de la biographie de Jérôme Ferrari dans Très brève théorie de l'enfer, son dernier roman. Comme lui, le narrateur est un prof de philo français qui s'expatrie en Algérie, puis aux Émirats Arabes Unis. Pendant l'un de ses cours, dans un lycée d'Alger, au début des années 2000, une déflagration retentit. Et le personnage raconte « J'ai vu le visage de mes élèves, tous ces jeunes gens que j'aimais, devenir livides. » Et je ressentis pour eux tous une immense compassion. Cette compassion, le narrateur y revient un peu plus loin, en disant « Ma compassion, qui me coûtait si peu, m'a paru soudain non seulement inutile, mais incroyablement insultante et obscène, et seulement destinée à nourrir une bonne conscience dont personne n'avait que faire, car en vérité, je ne voulais pas rester ici pour prendre le risque de mourir auprès d'élèves que je n'aimais quand même pas à ce point. » Finalement, personne ne se résigne à vivre volontairement dans la peur quand il existe une alternative. et il fallait profiter de cette chance et partir au plus vite, sans hésitation ni remords, en s'abstenant si possible de jouer l'abjecte comédie de la compassion. Très brève théorie de l'enfer est scandée par les réflexions de ce personnage sur sa bonne et sa mauvaise conscience d'occidental expatrié.
C'est un des thèmes centraux du roman, qui est une espèce de déclinaison du thème de la culpabilité, en fait. Hein. De fait, j'ai dit dans le roman, mais c'est vrai, en 2003, quand je suis arrivé, il y avait des collègues algériens détachés du ministère qui travaillaient au lycée international et qui gagnaient 10 ou 15 fois moins que nous, que les professeurs expatriés. De même, on arrive aux Émirats... qui est quand même un pays de grande opulence, et on est confronté à des types d'immigration ou à des types de vie, pour celles qu'on voit, parce qu'on voit même pas tout, qui sont absolument incommensurables. Et on se retrouve donc, ipso facto, placé de manière complètement objective et indépendante de notre volonté, dans une situation d'extrême privilège, qui est absolument nouvelle. On peut pas dire que la situation d'enseignant en France soit particulièrement privilégiée, et là, elle le devient. Et on se trouve quasiment en haut d'une hiérarchie sociale, subitement. Et c'est extrêmement bizarre, et moi je trouve moralement extrêmement dérangeant. Et c'est d'autant plus dérangeant moralement que la situation, on y est réellement pour rien. Et qu'en même temps, je n'ai jamais réussi à m'en sentir totalement innocent. Et que les oscillations constantes entre j'y suis pour rien, bonne conscience, et j'ai fait quelque chose de mal, ce qu'il faut, mauvaise conscience, sont constantes. Nos intentions, nos désirs, notre bonne ou notre mauvaise volonté comptent nettement moins que la situation qu'on occupe dans une structure et dans laquelle on se dissout.
Mais que le personnage dise à sa bonne, je vous propose un billet d'avion pour qu'elle puisse rentrer chez elle parce qu'elle n'en a pas les moyens et finalement c'est plus humiliant pour elle qu'autre chose. C'est aussi ça l'un des motifs du roman. Pour utiliser un mot un petit peu à la mode, cette bienveillance, elle peut être source d'humiliation pour les gens.
Ça, c'est des choses qu'on peut pas deviner, en fait, et qui sont réelles et qui tiennent à la situation de... à ce que ça veut dire que partir de chez soi à 20 ans, du Sri Lanka, des Philippines, du Bangladesh, pour venir travailler dans un pays riche. Et ça, pour rendre justice aux gens qui font ça, il faut savoir ce que ça veut dire et pas simplement ce qu'on imagine de ce que ça veut dire. Ça veut dire que quelqu'un part en quelque sorte à l'avant-poste au nom de toute la famille et qu'il est censé leur envoyer de l'argent. Et ça veut dire, et ça je l'ai découvert là-bas, ça veut dire aussi que, comme il est à l'avant-poste depuis 10 ans, depuis 20 ans, ses liens avec sa famille finissent par se réduire uniquement à cet envoi d'argent, et peut être vu comme, en quelque sorte, un dû. Et la naïveté dont je parle dans le roman est celle de croire que je vais faire plaisir à quelqu'un, on lui permettra de rentrer chez lui, à une période où il n'est pas prévu qu'il rentre chez lui, où il n'a rien à ramener. Moi, prendre conscience de ça, ça m'avait vraiment, 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 vraiment bouleversé, parce que là, c'est une situation quand même absolument abominable, qui consiste à être en quelque sorte étranger, périphérique, et pas à sa place partout. Et avoir fait un voyage sans retour, sans même avoir conservé un port d'attache avec de l'amour et de l'affection. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas inventer, et que je trouve assez bouleversantes.
Comment vous vous en êtes rendu compte sur place ?
Je m'en suis rendu compte sur place, exactement comme c'est écrit dans le roman, là, pour le coup. On avait la personne qui s'occupait de notre fille et d'autres enfants de famille française. On avait décidé de lui payer, quand un de ses petits-enfants est né, de lui payer un billet retour pour Colombo. Et elle l'a pas pris. Elle a dit qu'elle pouvait pas rentrer. Alors, elle l'a pas dit de manière aussi... dramatique que dans le roman, mais elle a dit qu'elle pouvait pas rentrer sans prévenir et sans rien amener. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait personne serait content de la voir si elle rentrait les mains vides.
Pour ma fille Nora et pour Renuka, c'est la dédicace de Très brève théorie de l'enfer de Jérôme Ferrari. Renuka est justement le prénom de celle qui s'est occupée de la fille de Jérôme Ferrari lorsqu'il était prof expatrié à Abu Dhabi. Et ce livre, Très brève théorie de l'enfer, met en regard deux émigrations, celle d'un occidental, prof, et celle d'une Sri Lankaise, nourrice et femme à tout faire pour les Français expatriés sur place. Dans le roman, cette femme s'appelle Kavisha. Elle a dû abandonner son fils pour partir aux Émirats, gagner de l'argent, et envoyer cet argent à sa famille restée au Sri Lanka. lorsque Kavisha revient chez elle, son fils a 5 ans. Et voici la scène de leur retrouvaille. Elle se mit à genoux près de lui pour le prendre dans ses bras et le couvrir de baisers et saisir avec lui tous les moments disparus qu'elle ne vivrait plus jamais. Et elle l'étreignit si violemment qu'il prit peur et se mit à crier en se débattant pour échapper à son étreinte. Elle ne le relâcha d'abord pas. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. L'enfant la repoussait et criait de plus en plus fort. Quand elle le libéra, il fut emporté par son élan et tomba lourdement sur le sol. Il se releva, criant et pleurant toujours, et il se mit à courir les bras tendus vers la sœur de Kavisha, qui lui tendait les siens en retour pour qu'il y trouvât refuge. Et il courait les yeux pleins de larmes d'effroi en appelant « Maman ». Suite de la conversation avec Jérôme Ferrari.
Quand je suis arrivé aux Émirats en 2012 et que m'a tout de suite sauté aux yeux que le travail de Renouka et des femmes qui, comme elles, font ça, consiste à passer toute leur journée, pendant 2 ans ou 3 ans, avec un enfant, qu'elles ne verront plus jamais de leur vie après, et à en prendre un autre, alors même que leur enfant, à elles, il est loin. Et que donc, elles sont extrêmement proches et intimes avec des enfants qu'elles verront pas, plus jamais, pour la plupart, et qu'elles ne cessent de penser à un enfant qu'elles voient pas, qu'elles n'élèvent pas, qui est le leur. Hein. Ça, c'est des choses dont j'avais eu l'intuition, mais dont j'ai pu mesurer dans des entretiens qu'elles étaient réelles.
Et alors, quand on écrit une scène comme ça, quels sont les écueils, par exemple? C'est une scène, en plus, qui clôt un chapitre, quand elle retrouve son petit garçon, qui a 5 ans, et qui se met à pleurer en la voyant.
Oui, puis qui se réfugie dans les bras de sa tante en l'appelant maman, parce que c'est sa tante qui l'a élevée. Les écueils, pas seulement de cette scène-là, mais de... Il y en a tellement. Alors là, ça, c'est bien d'y penser avant, quand même. Pour moi, l'écueil principal, c'est celui, tout comme toujours, de... C'est un écueil éthique, hein, c'est pas un écueil esthétique. C'est celui de l'obscénité, dont j'ai une peur atroce. Et l'obscénité est protéiforme, hein, et elle peut aussi se loger dans une espèce d'empathie tellement énorme qu'elle usurpe en quelque sorte les sentiments des gens qui sont censés vivre des choses comme ça, comme si on comprenait mieux qu'eux ce qu'elles vivaient.
Et que de fait, votre compréhension, votre empathie prennent beaucoup plus de place que la douleur des personnes qui vivent la situation.
Exactement. Un peu comme, je crois que je ne sais plus où j'ai écrit ça, mais ça me fait penser à ça, c'est un peu comme quelqu'un qui vient dans un enterrement pour pleurer 3 fois plus fort que les membres de la famille, quoi, ce qui est évidemment insupportable. Et on aimerait bien qu'il soit un peu moins empathique, en fait. Et du coup, pour ça, je pense que la ressource, c'est de supposer que la scène, elle a suffisamment de force en elle-même pour se passer de commentaires, hein, et que la décrire précisément doit être suffisant. Il me semble que ce n'est pas la peine d'en rajouter, voilà.
Le thème de l'obscénité, alors on en revient à l'histoire de la culpabilité et de la bonne conscience, mais ce thème-là, c'est un thème autour duquel vous tournez.
Dans à peu près tous les beaucoup de romans que j'ai écrits avant, oui, effectivement. Et c'est un thème extrêmement problématique, précisément en raison de l'aspect très très multiple que peut prendre l'obscénité. Il me semble même que certains excès de pudeur peuvent être
obscènes. C'est-à-dire ?
Suggérer des choses qu'on veut pas montrer, mais les suggérer très très fort. Enfin, moi j'ai une admiration assez immense et assez horrifiée et dégoûtée pour le travail de Michael Haneke, par exemple, parce que lui, il fait exprès de se montrer. C'est un travail explicite sur l'obscénité. Je pense notamment au tour de force que représente un film comme Funny Games, mais il y a des scènes comme ça dans Le Ruban Blanc aussi, où c'est précisément l'usage du hors-champ et de pas montrer les choses qui rend les scènes encore plus obscènes. Et ça, Haneke le fait de manière parfaitement consciente, puisque notamment dans Funny Games, j'avais vu un entretien de lui où il cherche explicitement à provoquer, lui, chez le spectateur, le sentiment « mais pourquoi je reste à regarder un truc pareil, quoi, hein ?» et pourtant je reste, alors pourquoi tu restes? Mais quand on travaille dessus comme lui, c'est une chose, mais le pire, c'est quand on se montre obscène sans le faire exprès. Et notamment quand on se montre obscène sans le faire exprès et en ayant les meilleures intentions du monde, hein, ce qui n'est pas du tout une excuse sur le résultat. Et précisément, il y a un problème de l'obscénité qui est tout particulièrement lié à la représentation esthétique, à la représentation dans les films ou dans les romans. Et comme le problème n'a pas de solution, eh ben on y revient.
Baisse les armes, dans la voix d'Arthur Toboul du groupe Feu Chatterton.
Un soir où je broyais du noir, j'étais seul au milieu d'une ombre. Je me noyais sur les boulevards quand elle a surgi dans mon ombre. Elle m'a dit, la rumeur court, que la mort nous suit aux semelles. Elle m'a dit, la rumeur court, et toi tu devrais faire comme elle. Des kilomètres et des kilomètres à essayer d'être un autre que moi. Des kilomètres et des kilomètres à râler, à ne rien reconnaître. Des mois et des mois à cavaler, à courir à ma perte. Baisse un peu les armes, laisse venir les larmes. Que tu redoutes la grâce t'attend. J'ai fait comme si tout allait bien, je n'ai pas plié genoux. J'ai fait comme si ce n'était rien, et j'ai rendu les coups. Puis j'ai fait scintiller l'armure pour qu'on ne me voie jamais faible. Avant qu'apparaisse ma blessure, je m'en vais sous un autre ciel. Des kilomètres et des kilomètres à essayer d'être un autre que moi. Des kilomètres à me fuir pour ne pas reconnaître cette voix, là-haut dedans, maintenant je l'entends. Baisse un peu les armes, laisse venir les larmes, que tu redoutes, la grâce t'attend, là.
Le narrateur de Très brève théorie de l'enfer, nouveau roman de Jérôme Ferrari, est un expatrié français à Abu Dhabi. Il y voit d'autres immigrés qui travaillent sur des chantiers ou conduisent des taxis. La femme qui s'occupe de sa fille vient du Sri Lanka. Jérôme Ferrari a vécu 2 ans à Abu Dhabi entre 2012 et 2014. Est-ce que quand vous étiez sur place, vous avez mené des entretiens? Est-ce que vous avez enregistré des gens?
Alors, je ne l'ai pas fait en 2012, parce que j'étais dans une situation un peu particulière, dans la mesure où j'ai eu ce poste à Abu Dhabi en septembre 2012, et en novembre, j'ai eu le concours. Ce qui a fait que j'ai pas pu rester beaucoup aux Émirats, en fait. J'arrêtais pas de prendre l'avion. En revanche, la dame qui s'occupait de notre fille, qui s'appelle Renuka, et à laquelle le roman est dédié, on est toujours resté en contact avec elle. On est retourné la voir plusieurs fois, et je me suis très très longuement entretenu avec elle, mais pas en 2012, plus tard. C'est en continuant à la fréquenter, à la voir, etc., que le type de rapport a changé, et que j'ai pu me permettre de lui poser des questions que jamais je me serais permis de lui poser à l'époque. Mais moi, quand je suis arrivé en 2012, assez rapidement, j'avais eu l'ambition complètement délirante, d'ailleurs, j'aurais jamais réussi, Goncourt ou pas Goncourt, mener des entretiens avec des gens qui auraient travaillé dans le bâtiment, par exemple. Mais ça, j'ai compris assez vite que c'était absolument impossible.
Pourquoi ?
Mais parce qu'il n'y a pas d'espace commun où se rencontrer, en fait. On est au même endroit, mais encore faut-il avoir un lieu, un espace hein, absolument matériel où on se croise, et cet espace-là, il n'existe pas. Mais ça, c'était vraiment quelque chose que j'aurais voulu faire dès que je suis arrivé, oui.
Qu'est-ce qui vous aurait le plus surpris dans ces entretiens, dans ces échanges ?
Je sais aussi que comme, enfin ça c'est des choses que tous les ethnologues savent, qu'un entretien, ça donne des informations, mais que par définition l'entretien ne donne que les informations que la personne qui parle veut transmettre à l'autre, et que l'écart entre la réalité et ce qu'il veut transmettre peut être assez importante.
Comme en interview.
D'ailleurs, j'ai vu des gens dont je pense qu'ils m'ont fait un tableau tellement idyllique de leur situation que je sais pas s'ils regardaient pas autour en pensant qu'il y avait des micros. Voilà, mais ça se voit. Je pense que pas. Il y a des choses qui se voient, notamment le degré de confiance que la personne qui vous parle vous fait. Et dans quelques cas, j'ai vu que ce degré de confiance était quand même proche de zéro à peu près, donc que j'ai pas eu beaucoup d'infos fiables. Mais voilà, j'arrive même pas à comprendre comment on peut soit lire, soit écrire si on s'intéresse pas un peu aux autres. Et donc à toute la diversité de l'expérience humaine, spécialement quand l'expérience humaine en question est du domaine de l'inconcevable pour nous, et peut certainement pas être atteinte par les ressources de l'imagination, parce que ça dépasse et notre imagination et notre possibilité de conception.
Pour vous, écrire, c'est ça ? C'est se mettre à la place de l'autre ?
Ah ben pour moi, écrire et lire, c'est faire à la maison une expérience de l'altérité, oui. Si on veut écrire un roman où les personnages tiennent la route, il faut qu'on fasse une expérience de l'altérité dedans. Sinon, on divise notre ego en mini-ego avec des masques et personne ne croit un mot. Les personnages n'ont pas d'épaisseur, n'ont pas de profondeur. Il faut être capable de découvrir en lisant ou de mettre en place en écrivant des perspectives qui sont violemment pas les nôtres, en fait. Et c'est, pour moi, c'est tout l'intérêt de l'écriture. Et sans doute aussi de la lecture.
Vietnam, 1969, c'est la guerre et le colonel Kurtz ne répond plus. L'état-major américain veut l'éliminer et ce sera la mission du capitaine Willard. Telle est la trame d'Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, sortie en 1979. Jérôme Ferrari a choisi de vous en faire écouter une scène.
Ah, j'ai choisi Apocalypse Now parce que c'est mon film préféré. Enfin, c'est la beauté des images. Alors, il peut toujours accuser ce film d'esthétisme, mais la photographie est fantastique. La profondeur métaphysique de ce film, elle est pour moi inégalable. Et par ailleurs, quand on me demande ce que c'est qu'une adaptation réussie, ben voilà, c'est ça, quoi. C'est passer du cœur des ténèbres de Conrad à Apocalypse Now. C'est pour moi exactement l'idéal de ce que peut être une adaptation, quoi. Où on reconnaît les motifs, les thématiques profondes d'une œuvre dans une autre qui en même temps lui répond et qui n'a rien à voir et qui est sa projection sur un plan complètement différent. Voilà. Il m'arrive encore de regarder des extraits. Enfin, this is the end, beautiful friend. This is the end, my own.
La scène que Jérôme Ferrari a choisie se situe à la fin du film, entre Aurore Clément et Martin Sheen, le capitaine Willard à l'écran. Je prends le parti de vous la faire écouter en français, parce qu'Aurore Clément se double elle-même. Martin Sheen et elle sont dans une chambre, et elle dit « Je préparais toujours l'opium pour mon mari ».
C'était sa morphine, il en prenait pour apaiser les blessures de son cœur. Je le voyais arracher et pleurer, mon soldat perdu. Et je lui disais, il y a deux hommes en toi, tu ne vois pas. Celui qui tue et celui qui aime. Et lui, il me disait, je ne sais pas si je suis un animal ou un dieu. Vous êtes les deux à la fois. Vous en voulez encore ? Tout ce qui importe, c'est que vous soyez vivant. Vous êtes vivant, capitaine. C'est tout ce qui compte.
C'est la première fois que je l'entends en version française, en fait. Et en anglais, elle dit pas « c'est tout ce qui compte » à la fin. Elle lui dit « it's the truth », c'est la vérité. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Vous êtes vivant, c'est la vérité.
Ah ouais, mais vous connaissez le film super bien pour faire ce distinguo, quoi.
Oui. Cette scène-là, c'est m'a donné le titre d'un roman que j'ai écrit en 2009 qui s'appelle « Un dieu, un animal ». Quand je parlais de profondeur métaphysique, dans ce passage-là, il est pour moi cette espèce de déchirure, d'écartèlement entre la transcendance et les ténèbres, qui sans doute, effectivement, Coppola avait raison, rendu encore plus manifeste par la guerre, ou du moins par la vision métaphysique qu'il a de la guerre. Hein, c'est magnifique. Et la fin de la scène, elle se déshabille et elle ferme le moustiquaire. Encore une fois, au niveau photographie, c'est merveilleux.
Mais là, de l'entendre en français, parce que bon, alors, elle a doublé en français, c'est sa propre voix, évidemment, oui. Mais on s'est dit encore plus l'étrangeté de son ton, l'étrangeté de sa voix.
Ah oui, mais la scène, elle est complètement étrange. Hein. Ils sont allongés sur un lit, ils viennent de fumer de l'opium, et elle lui tient ce discours dont personne ne songe même à se demander s'il est réaliste ou pas. Ça n'a aucun sens, certainement pas, d'ailleurs. Mais elle joue magnifiquement bien, c'est le ton qu'il fallait. Il faut pas dire des choses comme ça sur un ton tragique, mais simplement avec cette espèce de calme désespoir de l'évidence.
Vous entendez, vous, les voix de vos personnages ?
J'entends pas leur voix et je vois pas leur tête. Ce que j'entends, c'est leur ton. Parce que le ton, ça, on peut l'avoir dans un texte écrit et pas une voix. Mais le ton, oui.
Quand vous relisez, qu'est-ce que vous corrigez le plus ?
Quand je corrige, je relis moi à haute voix. J'écris assez lentement et très très laborieusement et très très précautionneusement. Et en général, les corrections sur épreuve sont assez... sont des corrections de détails. Je change jamais beaucoup, beaucoup de choses sur épreuve. Les corrections que je fais sont en général uniquement basées sur des considérations rythmiques que je peux avoir qu'en relisant à haute voix.
Donc ce que vous changez, c'est pas les mots, c'est la ponctuation ?
Pour le rythme, il faut peut-être enlever un mot, en rajouter un, intervertir des choses, voilà.
Mais vous avez dit, j'écris de plus en plus précautionneusement. C'est bizarre de dire ça.
Non, le vrai, c'était le deuxième adverbe était meilleur, c'était laborieusement. Mais en même temps, c'est un peu rendu nécessaire par le type de phrase que j'écris, où il y a les phrases, comme elles sont souvent assez longues, quand la phrase est finie, la changer, ça devient très très compliqué, quoi. Sauf à changer une virgule ou à rajouter un mot, c'est difficile de faire des interventions de chirurgie esthétique locale, quoi. C'est où ça va, où ça va pas.
Et, ah ouais, donc on peut pas faire de la retouche.
C'est parfois compliqué, oui.
Et ce rythme-là, de la phrase longue, il s'est imposé comment ?
Pour moi, dans la phrase longue, elle peut avoir plusieurs fonctions, mais les choix formels en littérature, c'est toujours des choix de fond. Il n'y a pas un fond qui pourrait avoir plus telle ou telle forme. La forme qu'on choisit, elle a des effets absolument immédiats sur le fond, sur ce qui est possible, sur ce qui n'est pas possible. Là, pour les deux derniers romans, la forme du ressassement, c'est forcément une forme longue. Enfin, c'est avec une idée qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, et qui va avec une forme de continuité. Parfois, dans les phrases que j'écris, il n'y a aucun problème à mettre un point au lieu d'une virgule. Mais si je décide de mettre une virgule et pas un point, quand c'est possible grammaticalement, je veux dire, c'est parce que je veux inciter un mode de lecture qui est un mode sans pause, qui est un flux. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. A new life for me. Ooh, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Après le Feeling Good de Nina Simone, suite d'une rencontre avec Jérôme Ferrari, écrivain, c'est totémique jusqu'à 10h. On passe à votre carte blanche ?
Oui.
Vous avez choisi quoi ?
J'ai choisi un extrait de Borges, qui est extrait de l'histoire de l'éternité et du chapitre qui s'appelle « Les traducteurs des mille et une nuits ». Et c'est le passage où il présente Richard Burton.
Richard Burton, donc, qui est donc un explorateur qui est présent et dans Nord Sentinelle, votre précédent roman, et dans Très brève théorie de l'enfer.
Et qui sera la figure centrale du troisième volet du triptyque. Non. Alors, on devine d'après ce catalogue l'écrivain qu'il était. Un capitaine anglais qui avait la passion de la géographie et de toutes les façons d'être homme que connaissent les hommes. Je ne diffamerai pas sa mémoire en le comparant à Paul Morand, gentleman bilingue et sédentaire, qui monte et descend inlassablement dans les ascenseurs d'un immuable hôtel international et qui vénère la contemplation d'une malle. Burton, déguisé en afghan, était allé en pèlerinage aux villes saintes d'Arabie. Auparavant, en habit de derviche, il avait exercé la médecine au Caire en l'alternant avec la magie et la prestidigitation pour inspirer confiance aux malades. Vers 1858, il avait dirigé une expédition aux sources secrètes du Nil, entreprise qui lui a fait découvrir le lac Tanganyika. Il y contracta une forte fièvre. En 1855, les Somalis lui transpercèrent les joues d'un coup de lance. 9 ans plus tard, il expérimenta la terrible hospitalité des cérémonieux cannibales du Dahomey. À son retour, le bruit ne manqua pas de courir, qu'il avait mangé d'étranges chairs. Il avait fait du solitaire métier d'écrivain quelque chose de hardi et d'innombrable. Il se lançait à l'attaque de l'aube, dans un vaste salon multiplié par 11 tables, chacune portant la documentation nécessaire à un livre, et l'une d'elles avec, dans un verre d'eau, un lumineux jasmin. Il inspira des amitiés et des amours célèbres. Burton aurait fort bien pu assumer la superbe des vers du divan d'Al-Mutanabi. Le cheval, le désert et la nuit me connaissent, et l'hôte et l'épée, le papier et la plume.
Dans ce passage, il y a une phrase qui figure dans Très brève théorie de l'enfer.
C'est, il avait la passion de la géographie et de toutes les manières d'être un homme que connaissent les hommes. C'est avoir la passion de toutes les manières d'être un homme que connaissent les hommes. C'est une phrase qui m'a... C'est comme ça que j'ai découvert l'existence de Burton, en lisant Borges. J'en avais jamais entendu parler auparavant. Cette concise énumération de ce qu'il a fait donne effectivement une idée assez correcte de ce que fut sa vie.
Pourquoi cette phrase vous a marqué ?
Voilà, elle dit tout, on a avec une économie de moyens, et elle décrit un désir absolument magnifique et désespéré, parce que c'est un désir qu'on risque pas d'accomplir. Connaître toutes les manières d'être homme que connaissent les hommes, expérimenter toutes les manières d'être homme que connaissent les hommes, c'est impossible, mais qu'est-ce que c'est désirable.
Et ça, c'est possible en étant écrivain, un peu, quand même.
Alors, un petit peu, oui. Sans se faire transpercer la joue par une lance somalie, oui.
J'ai oublié de vous prendre en photo.
Bah on va le faire alors.
Merci pour votre enthousiasme.
J'aime pas ça, j'aime bien les photos, mais j'aime pas qu'on prenne. Vous connaissez des gens qui aiment, qui aiment être pris en photo?
Certains.
C'est vrai? Parce que moi, j'en ai pas vu beaucoup. Qu'est-ce que vous avez comme appareil?
Un Polaroid. Pourquoi vous y connaissez?
Un peu. J'aime bien la photo.
Bah, on la prend comme ça?
Ouais, ouais, vous me dites oui.
On va pas faire ça dans la bibliothèque, hein, pour un écrivain, c'est un peu cliché, on est d'accord.
Un peu, ouais.
Alors, chez vous... Allez-y, prenez-la.
On dirait que je souris sur la photo. C'est rarissime. Ça veut dire que l'émission s'est pas trop mal passée. J'ai une tendance à faire une gueule invraisemblable sur les photos. Mais oui, oui, oui. Parce que quand on prend en photo, j'ai souvent l'impression que je souris, mais en fait, je vois la photo et non. Non, non, je souriais pas.
D'autant qu'aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la promotion, quand on est auteur, peut-être encore plus que jamais, on se plie non seulement aux photos, mais à des vidéos. Moi, je vous ai vu dans une vidéo à Actes Sud, à présenter le roman. Ça, c'est des exercices relativement nouveaux, en fait.
Présenter le roman, c'est pas un exercice agréable, hein, parce que un roman, ça se pitch mal, et je suis très très mauvais en pitch. Après, lire un extrait, ça me pose pas de problème particulier. Les séances de pause en photo, ça m'en pose beaucoup plus, oui.
En tout cas, vous ne quittez pas celle-ci des yeux.
Ben non, parce que je souris.
Merci beaucoup, Jérôme Ferrari.
Merci.
Très brève théorie de l'enfer de Jérôme Ferrari est publiée chez Actes Sud. Guillaume Giraud a réalisé cet épisode de Totemic ce matin. C'était avec Adèle Calgar et Pauline Laverdure. Perrine Malinge coprogramme l'émission. Ilinka Negulesco trouve son et documentation. Et Jean-Baptiste Audibert assure la programmation musicale. La semaine prochaine, conversation dans les fauteuils d'un autre salon, celui de Sophie Fontanelle, qui se présente comme écrivaste. Et la semaine suivante, je vous propose une rencontre avec Louis Garrel dans une fausse cuisine.